Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis cette semaine. On revient sur cette fabuleuse semaine de tennis qui a couronné Diallo et Kazatkina à Granby. Charles Lajoie nous a accueillis sur son terrain dans l'Estrie et c'est le début du US Open. On va parler de Serena Williams et évidemment de tous les Canadiens présents. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok oui.
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Radio Podcast sur la ligne, l'émission officielle de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado NT. On est évidemment également toujours diffusé à ce qui était autrefois le 91.9 Sport, mais qui en date d'aujourd'hui, lundi, devient officiellement BPM Sport. Et on est très fiers d'annoncer que Sur la ligne fait partie de la programmation de BPM. Alors, ça me fait très plaisir qu'on puisse poursuivre l'aventure. Nicolas Richard, comment te portes-tu? Tu as pris une petite pause de Sur la ligne dans les dernières semaines. On est content de te retrouver, mon cher ami.
Petite pause tennistique et on est quand même choyé là, parce que on enregistre à l'extérieur et les voisins de gauche faisaient la toiture depuis le début de la journée. Alors j'ai dit, messieurs, il y aura une pause d'une heure à partir de 11h. Et voilà, donc dès que les antennes seront fermées, les gens pourront retrouver leur toiture.
Ah ouais, t'emmènes large dans les Saint-Jérôme.
Dans cette rue, je suis la mafia.
Hugues Léger, avec qui j'ai passé pratiquement toute la semaine à Granby, comment te portes-tu? On est de retour à l'Hôtel Montville dans notre domicile.
C'est le sprint final en vue du dernier Grand Chelem qui commence aujourd'hui, US Open. Donc, on a été hyper actifs depuis l'Omnium Banque Nationale, mais je suis content de te voir chaque jour, Alexandre. Semaine encore magique à Granby. On dirait qu'à chaque fois, il se passe quelque chose de spécial au Challenger et maintenant WTA 250, les championnats Banque Nationale de Granby avec cette victoire de Diallo où il a vécu une semaine de rêve et on a découvert un superbe athlète dont on va parler tout à l'heure. Et la victoire de Diarra Kazatkina, 9e mondiale pour le premier WTA de 250. On est choyé quand même d'avoir une top 10 qui reparte avec le trophée. Donc, je suis de très bonne humeur en ce moment.
Ouais, ça a été une méchante belle semaine à Granby. Je pense qu'on avait des attentes relativement élevées parce que le tournoi passait au statut de WTA. On savait aussi que le tournoi chez les hommes avait toujours été intéressant, mais je pense que de la façon dont les choses se sont déroulées, c'est au-delà de toute attente. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Mission accomplie, un sold-out sur le central à partir de mardi, un peu de problème avec la météo en début de semaine, mais cette organisation-là est rodée au quart de tour, avec des bénévoles qui reviennent année après année. L'équipe de Richard Quirion, évidemment, Eugène Lapierre, toute l'équipe, ça fonctionne très, très bien. Et je pense que les joueurs apprécient cette accessibilité-là, ce petit sentiment de famille qu'on sent à Granby là, autour du tournoi. Donc, c'est une recette qui fonctionne très bien.
Nico, y as-tu déjà assisté, toi, au tournoi de Granby dans le passé?
C'est plutôt Repentigny. Étant de la Rive-Nord, Hugues le sait, il vient de ce coin-là aussi, parce que c'est plus accessible. J'ai jamais été à Granby, en tout cas dans le cadre tennistique.
D'ailleurs, tu parles des internationaux de Repentigny. Ça débutait ce week-end. C'est toute la semaine à Repentigny, en fait. Alors, j'invite les gens, si vous avez une chance à aller voir, là, c'est tellement un beau tournoi à voir. Il y a quelques Canadiens en action. On a appris, par contre, que Kayla Cross s'est retiré. Ça, c'est un peu dommage parce que ça aurait été le fun de l'avoir là-bas. Mais il reste que, tu sais, des fois, il y a peut-être des noms qui vous disent rien. Je me souviens d'un certain joueur qui avait gagné le tournoi, c'est peut-être en 2013. En tout cas, dans ces eaux-là, il n'avait pas joué un match sur le central. Le nom disait... son nom ne disait rien à personne, incluant pour le directeur du tournoi. Et celui qui a fini avec le trophée entre les mains à la fin de ce tournoi-là s'appelait Nick Kyrgios, messieurs. Alors, des fois, vous ne savez pas qui vous voyez, mais vous avez peut-être des grandes vedettes ou Igas Swiatek qui a remporté ce tournoi-là. Nico, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, Repentigny qui a été rebaptisé ce week-end par le Parti conservateur. Repentigny. Alors, pour...
Vive ça!
Oui, parce qu'on est en période électorale, ça a été déclenché hier matin.
Dimanche, exactement.
Alors, ben voilà, ben c'est pas notre département. Et Nico, je sais que tu es un excellent généraliste. Est-ce que tes connaissances générales s'élargissent du monde du sport jusqu'au côté politique?
Ben, ayant étudié, ayant fait 2 diplômes dans le domaine de la politique, c'est une période assez fascinante, même si, bon, ben là, je veux pas non plus prendre... Tout le temps parler de politique, mais cette campagne-là sera vraiment intéressante pour plusieurs raisons. Là. Tu sais, oui, il y a un gouvernement qui s'enligne pour être, disons, gagnant, là, presque avec une longueur d'avance, mais quand même, pour
le
plusieurs raisons,
ce sera
le Parti québécois. Voilà. L'ADQ de Mario Dumont qui se faufile là, tranquillement. Non, mais ça va être une chouette campagne.
Le Parti Rhinocéros.
Le Parti Rhinocéros, voilà, qui existe encore par ailleurs. Hein.
Ah oui, ben, toi, tu me l'apprends, moi qui étudie en communication politique. D'ailleurs, toi, tu as un diplôme de Harvard, hein, si je ne me trompe pas, à distance.
Oui, en constitution démocratique et engagement social.
Ah, ben, je suis allé visiter ton institution pas plus tard que la semaine passée à Boston. J'ai bien aimé. Je me suis ramené une casquette de Harvard. Alors, ouais. Je vais pouvoir dire que j'ai une casquette de Harvard.
Campus toi, formidable ici. Oui, puis si jamais vous allez à Harvard, il y a une grosse statue de John Harvard qui est là. Et il y a souvent les gens qui
sur le pied d'or.
Sur le pied d'or, mais vous savez le pied en quoi il consiste?
Ben, je sais où tu vas en venir, mais vas-y, précise ton
En fait, c'est que lors des initiations, les nouveaux élèves sont invités à...
Ils font toutes sortes de niaiseries avec la statue,
Exactement. Voilà. Et tous les touristes y touchent généreusement.
Ah oui, je peux te dire que c'est ça, oui. Et sache aussi que, semble-t-il, que la statue de Harvard possède plusieurs informations erronées. D'abord, ça dit que c'est le fondateur. Il n'est pas le fondateur, John Harvard. Il est le pourvoyeur, le premier grand financier. Et sa statue, bon, la personne qui est là, on n'est même pas convaincu que c'est lui. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous saviez ça, mais enfin, on ne s'éloignera pas trop du tennis. Mais parlons de tennis, messieurs, puisque c'est notre mandat. Hugues Agrembé, garde. À tout seigneur, tout honneur, commençons avec le joueur local, Gabriel Diallo. Il a été phénoménal. Comment as-tu apprécié son jeu sur le terrain, toi, de ton côté, Hugues?
Quelle semaine de rêve pour Gabriel Diallo. Premier Québécois à remporter le tournoi de Granby depuis Eugénie Bouchard. Donc, c'est le premier garçon. La première fille, c'était Eugénie Bouchard. Il a été tout simplement exceptionnel. Moi, j'ai vu son match de très près hier en finale. Il y avait un adversaire coriace en Chang, très, très bon jeune joueur chinois qu'on va revoir beaucoup. Ce qu'il accomplit à 17 ans est tout à fait exceptionnel. Et la victoire, heureusement qu'il a conclu en 2-7 parce que je pense qu'en troisième, ça aurait été plus compliqué. Donc, 7-5, 7-6, victoire 7-5 au tie-break du deuxième set par Diallo. Écoute, c'est tellement réjouissant de voir un joueur local gagner. La foule était à fond, l'ambiance était électrique sur le court central du Club Saint-Luc. Mais c'est un autre joueur, je pense, qui a eu un déclic cet été avec cette victoire aux qualifications, on s'en souvient, à l'Omnium Banque Nationale contre James Duckworth, top 60 mondial. Et là, une victoire en Challenger, sa première victoire en Challenger. Après un début d'été difficile, il t'en a parlé d'ailleurs dans l'entrevue qu'on va sûrement entendre. Donc, très belle découverte, Gabriel Diallo. Je pense que tout le monde a beaucoup aimé sa semaine avec lui à Granby.
Écoute, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui aurait gagé qu'en lui donnant un wildcard au début de la saison, au début du tournoi, aurait remporté ce tournoi-là. Je pense que c'est vraiment une très, très grande surprise. Et quand tu regardes son parcours, il a battu Moria. Et Rocky Moria, ça ne dit peut-être pas grand-chose pour le grand public, mais c'est un gars qui l'avait déjà remporté, ce tournoi-là. Je pense que c'était en 2014. Et le Chinois qui l'a battu en finale, Hugues, Shang Jiancheng, c'est un gars que soyez pas surpris s'il est dans le top 10 éventuellement. À 17 ans, il est déjà très bon. Il a remporté le Challenger de Lexington. Je veux dire, à 17 ans, il fait déjà sa place là, parmi le tennis professionnel. Alors, moi, il travaille avec un joueur que tu connais bien.
Marcelo Rios, ancien premier mondial en 98, qui avait eu une année incroyable, Rios, et qui avait gagné le Sunshine Double, qui avait gagné Rome et Hambourg la même année. Joueur gaucher, flamboyant et... un autre bad boy du tennis, et on voit dans son look encore aujourd'hui que c'est un personnage. Chang, qui est un autre gaucher aussi, donc c'est pas étonnant si son coach est gaucher aussi. Donc, une paire vraiment intéressante et un joueur qu'on va revoir assurément, très jeune talent du circuit. Et je tiens à souligner le saut au classement que Gabriel Diallo a fait. Il se retrouve 335 à l'ATP aujourd'hui. Il était 518e au début de la semaine dernière. C'est un été de rêve que Gabriel Diallo vit en ce moment, avant de retourner à l'université l'Université du Kentucky aujourd'hui pour un cours qu'il va avoir à 13h apparemment. Il est sur les bancs d'école dans une heure et demie au moment où on enregistre le podcast. C'est quand on voit que le tennis n'est pas si jet-set que ça. Le gars, il reprend le collier de ses cours dès aujourd'hui.
Il y avait un vol ce matin à 6h et puis un cours cet après-midi. J'ai demandé en entrevue s'il allait manquer son cours. Il a dit non, j'ai déjà manqué une semaine d'école pour le tournoi. Et pas question que j'en manque une autre. D'ailleurs, excellent. Messieurs, je vous propose de l'écouter, Gabriel Diallo, quelques instants parce que je l'ai interviewé hier après son match. Voici un extrait et la conférence de presse complète, elle est sur toutes nos plateformes sociales. Alors, voici Gabriel Diallo. Premier commentaire, après cette victoire en Challenger, tu es le premier Québécois à remporter les championnats Banque nationale de Granby du côté des hommes. Félicitations.
Merci beaucoup, merci. Je suis super content. Puis j'aimerais remercier les fans parce qu'ils m'ont montré un support exceptionnel que j'ai jamais eu de toute ma vie. Donc, un grand merci à eux.
Même pas à l'université, parce qu'on sait que du côté universitaire, il y a beaucoup de bruit.
Oui, il y a beaucoup de bruit, mais ouais, c'est ça. Mais à l'université, il y a beaucoup de bruit, mais c'est plus pour l'université. Ici, c'est vraiment, ils m'encourageaient moi. Puis quand ça allait pas bien pendant mes matchs, ils m'encourageaient. Quand ça allait bien, ils m'encourageaient. Donc vraiment, ça m'a beaucoup aidé.
C'est quoi la discussion que tu as eue avec Martin Laurendeau? Tu disais, il n'y a pas si longtemps, il n'y a pas eu qu'on se parle de choses moins fun.
Parce que, en fait, on avait commencé à travailler ensemble en fin juin, quand je suis revenu de vacances. Puis on s'est entraîné ensemble 3-4 semaines. Puis je suis parti faire un tournoi à Winnipeg, un challenger. Puis le tournoi s'est pas très, très bien passé. Je suis pas complètement passé à côté de mon match. Puis. Après le match, on s'est assis puis on a parlé pendant très longtemps. Puis après ça, je suis super content d'avoir pu bien bounce back à la Coupe, puis après à Vancouver, puis après à Izé.
Parle-moi de ton match contre Cheng. Ça a été un autre long match, un 2-7. Ouais, t'as toujours des longs matchs cette semaine.
Non, franchement, beaucoup, beaucoup de crédit à lui parce que franchement, c'est un adversaire très tenace. Franchement, je trouvais que je jouais probablement mon meilleur tennis que j'ai joué de toute ma vie. Puis lui était toujours là, tout le temps. Il n'a jamais pris un pas vers l'arrière. Il est resté dans ma face tout le match. Il ramenait toutes les balles. Puis le jeu à 6-5 où j'ai 45 sur mon service, il ne ratait pas une balle. Il me brise. Il commence super bien le tie-break. Donc, franchement, crédit à lui. Puis, je suis juste content d'avoir pu gagner en 2-7. Puis, on va faire en 3-7 encore.
Justement, est-ce qu'il y avait un peu de nervosité sur ces premières balles de match-là que tu as eues?
Oui, il y en avait beaucoup. Je veux pas essayer de faire comme si que j'avais pas de stress, mais ouais, j'étais super stressé. Mais j'essaie de rester calme. Puis, franchement, il a joué des très bons points sur les balles de match. Donc, ça m'a pas trop dérangé. Parce que j'ai fait ce que je devais faire, mais il a été meilleur. Donc, je me suis juste dit, on continue, puis après, ça a passé.
Et c'était quoi? Tu dis, j'ai eu des conversations difficiles avec Martin il y a peut-être un mois ou à peu près. J'imagine, la conversation était beaucoup plus fun.
Ils étaient très contents. C'était juste une belle récompense du travail que nous avons fait les trois ensemble. Donc, on était juste contents de pouvoir savourer la victoire.
Le Chinois, c'est un des plus bels espoirs, peut-être, du tennis à 17 ans. Déjà, elle fait très bien chez les pros. C'est un gars qui va peut-être être un jour dans le top 10 mondial, mais toi, tu vas pouvoir dire que tu l'as battu en finale. C'est spécial un peu?
Il y a un avenir, tout un avenir devant lui. À 17 ans, il a accompli des choses qu'il y a peu de gens qui ont accompli. Il a gagné des challengers, il a été numéro 1 au monde. Il a déjà un très, très bon classement chez les pros, donc je lui souhaite vraiment le meilleur succès. Puis de mon côté, moi, je vais juste essayer de me concentrer sur moi-même puis voir où est-ce que ma carrière peut m'amener.
Et vivre ça avec ta famille, tu sais, t'as dit que c'était spécial parce que ils t'ont pas vu beaucoup jouer dans les deux dernières années. Et là, ils t'ont vu aller jusqu'au bout ici. C'était quoi de vivre ça en
fait? Ils étaient contents. Ma mère, je pense qu'elle pleurait. Je sais pas si elle pleurait, elle va peut-être pas l'admettre qu'elle pleurait, mais je pense qu'elle pleurait. Ben, elle était super contente. Puis c'est quelque chose que mes parents et moi avons travaillé très très fort depuis que j'ai commencé à jouer au tennis, gagner des tournois pro, donc on était les trois super contents.
Plus tôt cette semaine, tu m'as dit que tu avais un cours à 9h demain matin.
Ouais, non, j'ai un vol à 6h pour mon cours à 1h demain matin. 1h de l'après-midi demain, donc...
Et pas question de manquer la classe?
Non, pas question de manquer la classe. Non, j'ai déjà raté une semaine, je peux pas rater un autre cours.
Et dernière chose à te demander, ton sorti pour la Coupe Davis, est-ce que c'est une semaine qui va te donner beaucoup de confiance peut-être pour...
Absolument, oui, absolument. Je pense que pour n'importe qui, gagner un challenger, c'est quand même quelque chose de très, très bien. Puis ça va me donner beaucoup de confiance, pas juste pour ça, mais pour aussi ma carrière dans le futur. J'espère que ça ne va pas être le dernier que je vais gagner.
Gabriel, félicitations. Merci. Je pense que tu t'es fait de beaucoup de nouveaux fans cette semaine. Merci. Et puis, ça va nous faire plaisir de continuer à suivre ta carrière.
Merci beaucoup. Merci.
Quelle histoire il aurait été, Gabriel Diallo, messieurs. Quel jeune homme sympathique. Écoute, je pense qu'on s'est découvert un ami à Granby. On s'est découvert un ami au podcast. Il va être à surveiller. Et tu sais, il fera partie de l'équipe de la Coupe Davis. J'en parlais avec Nicolas Richard hors d'onde. Ben, avec Vachek, Alexis et Gabriel, on va avoir une équipe pas si mal. Et là, ben, on va peut-être se poser un peu plus de questions si on donne un peu plus de temps de glace à Gabriel Diallo, parce qu'avec ce qu'il vient de faire à Granby, écoute, il se donne certains arguments pour prendre une certaine place.
Oui. Écoute, Gabriel, il l'a dit après son match contre Chang hier, il dit « J'ai joué le meilleur tennis de ma vie. » Il jouait contre un adversaire extrêmement coriace qui n'a rien lâché tout le long du match. Alors, je le répète une fois, heureusement que ça peut être en 3-7 parce que je pense que Gabriel aurait été un peu fatigué. Mais le niveau de tennis qu'il a produit en finale hier me donne beaucoup de confiance pour ce qu'il pourrait faire en Coupe Davis. Grand gaillard de 6 pieds 7, très bon service, jeu tout en attaque. Tu en parlais très justement, Alex, on a parlé après le match hier. Il y a une trajectoire de balle particulière parce qu'il est très grand. Sa balle n'est pas très bombée en haut du filet. Très faible marge d'erreur. Sa balle souvent même touche le haut du filet. J'ai rarement vu autant de lead court que ce que Gabriel Diallo a fait durant la semaine. Il est tombé du bon côté du terrain. Donc ça, c'est assez intéressant. Son jeu tout en attaque et sa balle, quand elle est bien timée, comme on dit, elle fuse quand elle touche le sol. Elle est très dure à jouer. Donc, je pense que ce gars-là va continuer de monter au classement. On a découvert un très, très bon joueur de tennis en Gabriel Diallo.
Et à 6 pieds 7, moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il n'a pas de si grosse première balle que ça.
Non, c'est
vrai. Il y a peut-être de la place pour l'accélérer encore cette première
balle. Mais c'est normal. N'oubliez pas que le service est le dernier coup à s'améliorer chez les jeunes. Là. Donc, souvent, à 22, 23, 24 ans, un joueur va prendre en muscle hein, quand il devient plus du côté adulte et le service s'améliore. Et sa première balle, il la sortait de façon parcimonieuse, je veux dire. C'était pas sur tous les jeux de service qu'il sortait des bombes au premier service, mais au bon moment, à 40-0, quand il y avait plus de marge, un peu, là, il allait pour une grosse balle et ça passait souvent. Mais oui, son service peut progresser encore.
Par contre, tu sais, c'est souvent ça. Il a quand même un haut taux de placement de première balle. En tout cas, c'était le cas cette semaine. Je ne sais pas si c'est représentatif, mais il a un haut taux de placement de première balle. Alors, souvent, c'est ça. Tu réduis un peu la vitesse pour mieux placer la balle. Enfin, c'est toute une histoire, Gabriel Diallo. On va essayer de lui parler dans les prochaines semaines. Je l'ai invité au podcast et ben, ça a été vraiment fantastique de l'avoir. On ne voyait pas d'autres candidats possibles au début de la semaine pour remporter le tournoi du côté des femmes pour Kazatkina. Nico Richard, j'imagine que tu n'as pas été surpris de voir que la Russe l'a emporté.
Oui, puis elle était, tu l'as dit, la tête d'affiche. Lorsque son nom était annoncé, on s'est dit, bon, ça y est, elle est la grande favorite, quand même une top 10 mondiale, ce qui n'est pas banal. Et elle l'a prouvé. Pourquoi dans ce genre de tournoi, ce genre de joueur s'impose? Vous étiez aux premières loges, les gars, vous avez vu à quel point son jeu était une coche au-dessus de la mêlée, rien contre les autres joueuses, mais ça reste qu'une top 10 mondiale. C'est une top 10 mondiale. N'en demeure pas moins que pour moi, le gros coup de cœur de la semaine demeure Rebecca Marino, qui encore une fois nous a prouvé qu'elle était, un, de retour à un niveau exceptionnel. De deux, c'est pas une Québécoise, mais j'ai l'impression à chaque fois qu'elle est de passage au Québec, on la considère
comme
telle,
une Québécoise.
Exactement, parce que bon, elle a un bon français, vous le savez, je pense qu'elle a un attachement avec le Québec. Et mine de rien, même si ce n'est pas la joueuse la plus exubérante, la plus spectaculaire, on ne veut jamais rater ses matchs. Je ne saurais dire pourquoi, mais il y a ce quelque chose chez Rebecca Marino qui fait qu'on a envie de la suivre, qu'on a envie d'embarquer avec elle. Et à chaque fois qu'elle embarque sur le terrain, il se passe quelque chose. Les gars, vous êtes aux premières loges, vous pourrez en témoigner mieux que moi, mais c'est ce que je retiens. Au-delà de Kazatkina, là, pour moi, le coup de cœur de la semaine, c'est Rebecca Marino.
Elle est très attachante, Rebecca Marino. Puis je pense que son histoire fait en sorte aussi qu'on ait une affection particulière pour elle et un plaisir à l'avoir de retour au plus haut niveau. Écoutez, elle entre directement dans le tableau du US Open cette semaine, là, de son propre mérite, comme elle nous l'a dit dans l'entrevue. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'affection là, entre les Québécois et Rebecca Marino. Puis effectivement, Nicolas, tu l'as dit justement, c'est une belle joueuse à regarder jouer. Là. Très beau service, bel enchaînement, service coup droit. Et elle peut bousculer des bonnes joueuses. On sait qu'elle a battu Venus Williams encore il y a quelques semaines à Washington. Et son match contre Mboko, elle a très, très bien joué pour gagner 6-3, 6-3, parce que c'était un match très accroché.
Ouais, tu fais bien de souligner, Nico, de souligner la performance de Rebecca Marino, parce qu'au final, ben, ça va avoir été une performance qui a beaucoup de sens, et que dire aussi de Victoria Mboko, qui a bien fait contre Rebecca Marino. Et ça, c'est très encourageant pour une jeune joueuse qu'on va suivre beaucoup. Enfin, c'est intéressant tout ce qui s'est passé cette semaine à Granby, autant du côté des hommes que du côté des femmes. D'ailleurs, messieurs, j'ai rencontré Richard Crillon, le directeur du tournoi, pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé du côté de Granby cette semaine. Je lui ai demandé, bon, est-ce que la WTA notamment était satisfaite de comment ça s'est passé, à quoi on peut s'attendre pour le tournoi dans les prochaines années? Je vais écouter Richard Crillon.
Oui, c'est un super succès. Je pense qu'encore une fois, aujourd'hui, on voit l'importance des tournois canadiens, les tournois qu'on organise ici en sol canadien, parce que encore une fois, on a un joueur local qui gagne. Là, c'est sûr que la série sur le Sunday, c'est que c'est un joueur québécois, un joueur de Montréal qui remporte le tournoi ici à Granby. Parce que nos joueurs canadiens ont eu beaucoup de succès au fil des années, mais là, c'est d'avoir vraiment, pour la première fois, un joueur du Québec qui remporte le tournoi, je pense qu'il faut être très, très fier. Donc, tous les efforts qu'on fait depuis des mois à organiser ce tournoi-là, puis de voir au bout du compte que ça rapporte autant que ça, je pense que c'est, ouais, c'est très, 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 très bon comme ça. C'est bon pour l'avenir aussi, là.
Swanner, quand tu as autorisé le laisser-passer à Gabriel, est-ce que tu peux te douter une seconde qu'elle allait aller jusqu'au bout?
Mais moi, je fais confiance, évidemment, à la haute performance, là, qui eux, me dictent beaucoup au niveau des laissés-passer, c'est sûr. Puis c'est eux qui analysent ça, à savoir qui est le joueur qui le mérite le plus, parce que c'est vraiment sur une base de mérite. Puis on sait que Gabriel connaît quand même beaucoup de succès depuis un certain temps. Puis il s'est développé très, très, très rapidement dans les dernières... il s'est développé sur le tard, mais il s'est beaucoup amélioré dans les derniers mois. Fait que c'est sûr que la Centre nationale puis l'équipe de la haute direction l'avait à l'œil. Et puis, ben, il en a profité. Là, il est arrivé ici, puis il a vraiment... Écoute, il a dominé là, complètement. Il était tellement, tellement solide... même d'ailleurs, on a entendu le finaliste un petit peu faire ses éloges là, parce qu'il a été très, très, très dominant cette semaine.
Parlement de l'achalandage, ça a semblé, entre guillemets, sold out toute la semaine. Est-ce que tu es satisfait de la vente des billets?
Ben, c'est exceptionnel. On ne se cachera pas. Là, un tournoi de ce calibre-là qui attire une foule aussi nombreuse, ça se voit pas. C'est pas commun du tout. Là, puis nos tournois au Québec ont beaucoup de succès, c'est sûr. En général, on a des 500, des 600 personnes, des fois pour les finales et tout, puis même au courant de la semaine. Mais d'avoir près de 1000 personnes à chaque jour, dès le début, dès les premiers tours, c'est absolument fantastique. Puis je pense que les gens s'ennuyaient du tennis. Puis quand ils ont su que c'était un tournoi aussi relevé que ça qu'on allait présenter cette semaine, bien, les gens ont répondu à l'appel, puis ils sont venus en grand nombre. Fait que vraiment un succès sur toute la ligne.
Côté féminin, c'était quoi l'évaluation de la WTA? Parce que c'était quand même un gros step pour la ville de Granby de venir ici faire le tournoi. C'était quoi leur bilan, eux, de la tenue du tournoi?
C'était, ben, je te dirais pas à ma surprise, mais ils étaient très, très, très satisfaits. Et puis, je dirais pas à ma surprise, la seule raison pourquoi que je suis un peu, j'étais un peu indécis. Parce qu'on n'avait pas de base, on n'avait pas de référence. On avait juste, évidemment, plusieurs années d'expérience dans l'organisation d'un tournoi inférieur, là, de niveau inférieur, avec des standards inférieurs. Donc, avec l'expérience qu'on a de tournois un petit peu plus élevés, il a fallu vraiment qu'on se creuse les méninges puis être un petit peu créatif là, pour vraiment arriver aux résultats qu'on avait cette semaine. Et puis, je pense que on a visé dans le mille pour en offrant des solutions qui ont été bonnes puis qui ont été justes là, pour pouvoir accueillir ces athlètes-là. Et puis, ça a été reconnu. La WTA a été très satisfaite. Là, on a vraiment offert des services complets pour les athlètes. Et puis, tout a fonctionné. Maintenant, en effet... Comme à chaque année, on va s'asseoir, on va prendre le temps de reviser tout ça pour s'assurer qu'on s'améliore encore plus pour le futur. Puis maintenant que tout le monde a une bonne idée de ce que ça prend pour tenir un événement comme ça, ça va être beaucoup plus facile maintenant de pouvoir évaluer quelles seraient nos modifications ou nos changements s'il y en a pour le futur.
C'est peut-être un peu prématuré comme question, mais est-ce qu'on peut réespérer voir le logo WTA à Granby l'année prochaine?
Ah ben absolument, le tournoi est ici pour rester, c'est notre tournoi. Puis on sait à quel point que c'est bon ce tournoi-là pour nos athlètes. Là, Rebecca a quand même très très bien performé. On a même vu nos jeunes Canadiennes se qualifier et puis se rendre, puis gagner même quelques matchs. Fait que c'est extrêmement important pour le développement, puis c'est extrêmement important pour le rayonnement du sport partout au Canada, surtout dans la région ici. Fait que c'est sûr que pour nous, on veut garder l'objectif principal, c'est de revenir ici, revenir à chaque année, comme on l'a fait depuis les 30 dernières années, présenter le meilleur tournoi qu'on a jamais présenté. Puis il n'y a aucune raison qui nous fait croire qu'on ne ferait pas ça encore l'an prochain.
Est-ce que même ça pourrait influencer l'ATP à venir donner elle aussi une indication 250 peut-être, éventuellement, par upgrader le niveau du côté masculin aussi? Est-ce que c'est une possibilité?
Bien, autant chez les hommes que chez les femmes, avoir une sanction comme ça, c'est extrêmement difficile parce que ça voudrait dire que quelqu'un laisse tomber son tournoi quelque part dans le monde pour que nous, on le rachète. Donc c'est sûr que c'est rendu très, très, très difficile de faire l'acquisition d'un tournoi comme ça. D'où l'importance aussi, étant donné qu'on a une sanction WTA 250, de l'utiliser, puis de s'en servir, puis de continuer à l'organiser à chaque année. Alors, je pense qu'on va plutôt travailler de faire peut-être augmenter les bourses du côté masculin pour pouvoir justement, en augmentant les bourses, offrir encore plus de points aux athlètes également. Et puis, tout en suivant un petit peu l'évolution de nos athlètes pour vraiment offrir un tournoi qui va être à la hauteur de ce que nos athlètes ont besoin au pays. Pour leur faire donner encore plus de chances de remporter des points.
Merci Richard, félicitations pour l'organisation du tournoi. Puis là, vas-tu faire un tour à Repentigny la semaine prochaine?
Oui, bien là, évidemment, le tournoi est déjà en cours, ça va bien. On a des joueurs du top 10 mondial qui sont là, autant chez les garçons que chez les filles. Comité organisateur qui est extrêmement bien rodé, là, fait que tout semble très bien aller. Puis ouais, je vais être là, c'est sûr, mercredi, puis probablement durant le week-end. Ouais.
Merci une fois de plus à Richard Quirion. Messieurs, on va faire une courte pause. Au retour, on se transporte dans les cantons de l'Est, dans l'Estrie, sur le terrain de tennis de Jean-Charles Lajoie, qu'on a reçu au podcast. On a jasé une quinzaine de minutes avec lui et on le retrouve après la pause.
Profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée à l'Hôtel Montville. Une magnifique vue sur le centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre. Séjournez deux nuits à l'Hôtel Montville avec notre offre privilège qui inclut un délicieux petit déjeuner et un crédit d'une valeur de $75 à dépenser dans le restaurant de l'hôtel. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
On est de retour et pour le deuxième bloc, Hugues Léger, on a déménagé de l'Hôtel Montville. On est allé pas mal plus loin que Montréal. On est dans l'Estrie chez Jean-Charles Lajoie qui va être notre invité. Et là, je t'avoue honnêtement, Hugues, je suis un peu intimidé parce que animé à côté, je vais le dire, du meilleur animateur de sport au Québec, c'est intimidant. Bienvenue au podcast sur la ligne, Jean-Charles Lajoie.
Je suis tout aussi intimidé parce qu'on parle de tennis avec deux experts et je ne me réclame pas de ce titre, mais je suis bien content quand même. Bienvenue dans notre modeste demeure des Cantons de l'Est.
Et pour les gens qui nous écoutent en audio, bien, vous ne le savez pas, mais on est présentement sur un terrain de tennis, celui qui est propriété de notre invité. Mais tu dis que tu n'es pas un grand fan de tennis, Jean-Charles, mais quand même, je t'ai vu à Granby cette semaine, tu es venu faire ton tour.
Non, je ne suis pas un expert, mais je suis un maniaque. Oui, je suis vraiment un fan. Ça, il n'y a pas de doute. Puis, tu sais, ce court-là, ici, je le dois à Granby, dans le fond, parce que je le dois à cette affection, tout l'amour que déploie Eugène Lapierre pour sa ville natale, qui est aussi la mienne. Quand on a fait le chantier ici, à un moment donné, j'ai dit, un court de tennis, pourquoi pas? Tu sais, on a trois garçons, les trois garçons sont dans vingtaine, on les voyait moins souvent. À un moment donné, tu sais, il y a un gars qui a dit dans un film... build it and they will come, ben c'est ça. Alors, j'ai appelé Richard Legendre, qui m'a mis en contact avec Jonathan Normandeau de PC Court, qui est le fournisseur des installations à IGA Montréal. Ouais. Là, Joe est arrivé et dit « Quel défi extraordinaire! » Et puis, 180 voyages de sable de compaction plus tard, on posait la touche finale. Cette surface digne du US Open, donc identique à celle de Granby. Tout ce stimuli-là, je dis, bon, les garçons, et aussi, pourquoi pas, une star montante de la WTA en préparation. Il faudrait pour ça que la WTA supplisse la réglementation du housing pendant le tournoi. Petit message. Mais les joueuses adoreraient ça. Et je pense que le cadre ici, pour s'entraîner légèrement, il y a le gym, la piscine, les installations de spa également. Et moi, ça me ferait plaisir d'être le chauffeur désigné pour la semaine. Mais tout ça, là, tout ce buzz-là autour de Granby. Moi, j'ai vu Layla à 16 ans à Granby devenir la coqueluche du minuscule central de l'époque. Et ça frappe comme la foudre. Puis là, il y avait Diallo cette année. Quelle semaine il nous a offert, c'est extraordinaire. Alors tout ça, là, c'est dans une mouvance qui a permis ça ici. T'sais.
En gros, là, ce que tu nous dis, c'est s'il y avait eu trop de délais de pluie, toi, tu étais disponible pour organiser la finale féminine ici, tu étais prête.
Avec grand plaisir, incluant la tribune de presse tout là-haut, qui est un avantage par rapport au central de Saint-Luc, mais je pense que ça achève ça. Il y aura des améliorations, je suis certain.
Je voyais, Hugues, toi, tu es un spécialiste, un entraîneur de tennis, je te voyais tantôt marcher, là, faire des petits pas sur le terrain. Ton analyse du terrain ici, c'est quoi?
Bien, c'est une surface de calibre international, premièrement. J'ai envie de frapper des balles avec Jean-Charles après cet enregistrement-là, mais non, ça me fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui est un leader du sport, des communications, des médias sportifs à Montréal qui s'installe aussi chez lui pour le tennis. Justement, on termine Granby ce week-end. Le US Open s'en vient. C'est la rentrée de Jean-Charles cette semaine. Donc, le tennis à ce temps-ci de l'année, c'est important. Le US Open, c'est le dernier grand chelem de la saison. On parlera beaucoup de tennis avec toi ensemble cet automne, Jean-Charles. Comment t'entrevois le US Open qui commence là?
J'ai trouvé ça un peu... Est-ce que je peux dire que j'ai trouvé ça charrié? Non. C'est jamais charrié. On aime voir les nôtres être propulsés comme ça. Mais quand j'ai vu sur l'affiche principale, Layla, j'ai eu un petit vertige. J'ai dit, oh, un instant, là. Il y a 3 ans, c'était Granby. Et là, c'est l'affiche principale du US Open.
Bien, c'est la finaliste quand même.
Quand même. Oui. Et elle est extraordinaire. Moi, c'est elle, elle m'a raccroché charrié à ce sport-là complètement. En fait, là, regardez Layla, d'ailleurs, cette finale au US Open et ce parcours au US Open, j'étais incapable de regarder ça et de ne pas pleurer. Marie-Manon, on pourrait en témoigner, on pleurait tous les deux. À chaque fois que cette espèce de cri strident, ce cri primate, sa façon, ce regard franc, profond, qui n'est pas sans nous rappeler Maurice Richard dans un tout autre contexte, mais quand même, il y a une détermination là-dedans. Le scandale des balles, elle dit, moi, il y a 5 ans à peine, j'avais même pas de balles pour m'entraîner. Oui, ça, toutes ces histoires-là, là, tu te dis, bien, voilà un petit bout de femme extraordinaire. Elle est magnifique, magnifique.
6 Canadiens dans le tableau principal cette année, 5 en simple et une en double, je dois le dire, parce que Gabi Dabrowski, on n'en parle pas assez, une des meilleures joueuses au monde qui est en double, mais 5 Canadiens dans le tableau principal, il y a encore 10-15 ans, on n'aurait jamais pu imaginer ça, donc...
Absolument. Et, ben non, tout à fait. Et on a l'impression que la suite est belle aussi. Moi, j'ai eu très peur quand Louis est reparti dans ses terres en France. Mais bon, il continue d'être consultant, mais à distance, on sait que c'est jamais pareil. Fait que je suis pas inquiet de l'avenir. J'ai foi en l'avenir. Je vois que Montréal devient une terre d'accueil de plus en plus pour des athlètes internationaux qui viennent s'établir ici, obtiennent dans quelques cas la nationalité. Dans d'autres cas, ils sont ici depuis longtemps. Je pense que l'avenir est assuré. C'est très stimulant.
Bien, les autres pays déjà s'informent de ce que fait le Canada et les États-Unis en premier. John McEnroe pendant... puis Billie Jean King, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, elle disait il se passe des belles choses au Canada au niveau tennis. On est rendu un modèle de développement. Bon, c'est plus les modèles traditionnels.
Et le Québec... Et le chef de file canadien encore.
Oui.
Tu sais, on va beaucoup parler dans les prochains jours de la série du siècle en 72. Essayez d'imaginer le même contexte de série du siècle en 2022 et jurez-moi que le match premier de cette série-là serait présenté à Montréal. Jamais. C'est Toronto qui présenterait le premier match. Oui. Eh bien, en 72, c'était encore Montréal. Oui. Et c'est au Forum qu'on a présenté le premier match avant d'aller au Maple Leaf Garden pour le match numéro 2. Mais la grande saveur, la grande première, cette grande première chance de réussir une bonne première impression, c'est Montréal qui l'avait. Et au tennis, on l'a encore. En Formule 1 aussi avec le Grand Prix. Le Centre national est à Montréal. C'est la destination, c'est la plaque tournante canadienne. Alors, il faut capitaliser là-dessus et en profiter.
Et là, toi, ton intérêt au tennis, ça remonte à quand? Quels sont les joueurs qui t'ont marqué, qui t'ont fait triper? Bon, là, on comprend, elle est là, mais est-ce que ça remonte à beaucoup plus loin?
Oui, Steffi Graf, Boris Becker, Michael Chang en finale à Roland-Garros, dans le sable en 5-7. Et il y avait 17 ans, c'était-tu contre Agassi?
Ben, il avait battu Lendl en quart de finale avec son fameux service cuillère, bien avant Nick Kyrgios. Non, c'était Edberg qui avait battu en finale cette année.
Mais dans une bataille de près de 5h30 ou quelque chose comme, c'était... Je me rappelle pas, je devais avoir 10-11 ans et... j'ai rien manqué de ça. C'était fabuleux. Il était haut comme le filet. J'exagère, mais à peine. et des gros troncs, puis il se battait sur chaque balle comme si sa vie en dépendait littéralement. Il y a eu des grands matchs, des grandes rencontres comme ça. Après, un petit passage à vide, mais moi, j'ai embarqué après ça dans Federer, Nadal, puis tout ça. Là, le Joker qui arrive, et là, le Canada qui est en remorque, qui maintient pour nous l'intérêt, voire qui l'augmente, qui ravive cet intérêt-là. Mais il y a une bonne base de fans de tennis quand même au Québec.
Tu as déjà fait des voyages sportifs? As-tu déjà fait des voyages spécifiques au tennis?
Flushing Meadow, une fois. Une fois, mais c'était en fait, c'était pas spécifique à ça, mais accessoirement, ça a bien servi la cause. Puis c'était clair que c'était dans mon parcours de voyage, mais tu sais, ça, c'est, j'ai l'impression de personne, c'était à New York, là. Ça, moi, je fais ça en 4h30 en bagnole, là. quand il n'y a pas trop de State Trooper.
Ouais, c'est ça, exact. Exact. Et tu es allé voir de la balle juste en face?
Oui, bien sûr. Bien sûr, magnifique food court, un des bons food courts, d'ailleurs, celui du nouveau Stade Shea. Oui, Stade Shea, Yankee Stadium, l'extraordinaire Madison Square Garden, qui a reçu des grands matchs de tennis également dans l'histoire.
Tous les Masters se jouaient là. Quand c'était Nabisco qui commanditait le championnat de fin de saison, le Nabisco Masters, tu as eu des matchs mémorables de McEnroe, Connors qui sont joués là.
Bien, puis c'est encore, quand on regarde ce qui se fait à Miami, ben, ça se passe dans le stade des Dolphins. Ouais. As-tu l'intention d'aller faire un tour là? Tu es un fan de foot, peut-être mélanger tennis et foot?
Le Hard Rock Stadium.
Oui, le Hard Rock Stadium. Fan de foot, mais vraiment pas des Dolphins. contrairement à beaucoup de Québécois qui adoptent cette équipe-là parce qu'ils ont un chalet en Floride ou une roulotte ou je ne sais pas trop, je ne comprends pas qu'on puisse s'émouvoir devant cette équipe, mais enfin, ça, c'est un autre débat. Et il fut un temps, Dan Marino, mais il était bien seul, c'était un homme seul, puis je suis trop jeune, oui, pour avoir vécu Larry Zonka et la No Name Defense, puis tout ça, la saison parfaite, puis ainsi de suite. Je la vois dans les films, puis j'ai de la misère à m'émouvoir de ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le aqua, orange et football américain. Ça ne marche pas.
Donc, ce que tu nous dis, c'est que si tu y vas, il y a plus de chances que tu y ailles pour le tennis que pour le football s'il n'y a pas une équipe qui t'intéresse.
Ben, les Bucks avec Tom, ça m'intéresse. Les Jaguars, c'est répugnant à partir des couleurs. Mais le tennis, c'est intéressant. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tu sais, un jour, il faut que j'aille m'installer à Wimbledon. Et un jour, je dois faire ça. Et j'ai raté Paris par 4 jours, en fait, dans un voyage en Europe il y a une douzaine d'années de ça. Sinon, j'y serais allé assurément.
Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est Indian Wells aussi. Ça vaut vraiment la peine en Californie. Paraît-il que quand le soleil se couche sur le désert, dans les gradins, c'est spectaculaire comme vision.
J'ai pas mal fait, mais je suis pas allé étrangement à Wimbledon. J'ai fait Roland-Garros beaucoup quand je vivais à Paris. J'ai vu beaucoup de tournois.
Monaco?
Monaco, un de mes préférés, au bord de la mer, à Côte d'Azur, sur le rocher, t'as une vue sublime. Là, on ferait peut-être un voyage de tennis ensemble un jour, Jean-Charles. Ça me ferait bien plaisir.
Pourquoi pas?
Jean-Charles, bon, on a parlé de tennis, mais je m'en voudrais de ne pas te parler de ta rentrée officielle. Oui. Nous, on enregistre l'entrevue la veille de ta rentrée, mais ça sera diffusé après. Comment te sens-tu?
Très bien. Très, très bien. Évidemment, fébrile, parce que on se demande toujours comment ça va se passer. Je suis encore capable de faire ça. Je me pose la question, comment je vais dire bonjour aux gens? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Comment je vais tout dire en 15 minutes?
Tu sais qu'il n'y a personne d'inquiet pour toi là-dessus,
ben
ici.
Non,
là.
Ça va être très difficile de partir à la première pause à l'heure dite. Mais comme on est réseau maintenant, il paraît que j'ai pas bien le choix. J'ai pas une grande latitude. Mais non, je suis bien énervé. Cette douce impression de rentrer à la maison, de retrouver sa première blonde. Excusez-moi, c'est parce que je voulais que vous soyez prêts pour Flushing Meadow. J'ai demandé à un ami de passer avec son bimoteur au-dessus du court pendant l'entretien.
Ou l'Omnium Banque Nationale, c'est la même chose.
Ou l'Omnium Banque Nationale, effectivement. Alors, non, fin prêt, fébrile. Tous les invités, à une exception près, demain, viennent en studio. Y incluant Dominique Ducharme et Alex Burrows. Alors, c'est une belle marque d'affection, belle marque de confiance. Je suis bien énervé.
Ben, écoute, je pense que je parle au nom du podcast Sur la ligne. Moi, Hugues et Nico aussi, ce sera un plaisir de travailler avec toi. Le monde ne le savent pas. Nous, on a travaillé ensemble, on a passé près de travailler régulièrement.
Vraiment ensemble.
Au point où on avait des meetings dans des bureaux ensemble.
C'était notre choix.
Ah, ben,
rien particulièrement.
Ça m'aurait fait.
J'ai choisi autre chose.
Ça m'a, ben, je ne l'ai pas regretté.
Ça bien,
oui, je ne l'ai pas regretté. Ça. Je ne l'ai pas regretté, mais ce sera un immense plaisir de travailler avec toi. Et puis, Jean-Charles, je sais pas si tu as un... Jean-Charles, Hugues, j'imagine que tu as un mot pour notre invité en ce sens-là aussi.
Ben, moi, je pense que le retour de Jean-Charles à la radio, c'est pour les fans de sport, c'est un moment important. Moi, je suis personnellement extrêmement heureux de te réentendre parce que ton style fit tellement bien avec la radio. Donc, ça va être un plaisir de se réveiller avec toi tous les matins. Je pense que tu arrives à un bon moment aussi. Ça va faire du bien de commencer nos journées avec toi à parler de sport.
Fantastique. Merci infiniment. Puis on va commencer avec le US Open en espérant avoir de belles histoires canadiennes à raconter.
Je serais pas surpris parce que Chapovalov, a peut-être débloqué au dernier tournoi. Félix a extrêmement bien fait en grand chelem dans les deux dernières années. Elle est là, on le disait, elle est finaliste. Alors non, il ne faudrait pas se surprendre. Enfin, Jean-Charles, ça va être un plaisir pour moi, Hugues et Nico de collaborer avec toi les matins. Tu nous appelles quand tu veux. On va jaser tennis avec toi.
Merci les gars. Bon succès.
Merci une fois de plus à Jean-Charles Lajoie qui débutait aujourd'hui, ce matin, son émission quotidienne. Bien hâte de voir comment ça va se tirer d'affaire parce que Hugues, c'est pas évident le morning dans le monde du sport.
Ouais, j'en parlais avec lui. Jean-Charles entre dans une période où, comme il l'a dit lui-même, il aura une vie de moine, une vie très rangée parce que c'est la combinaison de ses fonctions à BPM Sport et à TVA Sport dans la même journée, c'est quand même costaud là, d'aligner autant d'heures en ondes à chaque jour et d'être sur le piton très, très tôt ce matin pour être en studio à 6 heures. Mais s'il y a une personne qui peut le faire au Québec, c'est Jean-Charles Lajoie. Et on est tellement content de le revoir, de le réentendre surtout sur les ondes radio. Pour moi, c'est son élément naturel. J'adore l'idée du premier compteur CONTEUR que Jean-Charles nous propose chaque matin. Et je pense que dans l'univers des morning shows, ils vont aller chercher une audience plus qu'intéressante. Et c'était le fun de parler un peu de tennis avec Jean-Charles parce qu'on sera évidemment ses collaborateurs réguliers aussi.
Enfin, merci une fois de plus à Jean-Charles Lajoie qui nous a accueillis chez eux. De notre côté, on va faire une autre courte pause. Et ben, pour le dernier bloc, on va parler du US Open parce que ça, c'est parti, ça part aujourd'hui. Les qualifications se sont déroulées en fin de semaine. Alors, au retour de la pause, US Open.
Profitez d'un rabais de 30% sur votre deuxième nuitée à l'Hôtel Montville. Une magnifique vue sur le centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre. Séjournez deux nuits à l'Hôtel Montville avec notre offre privilège qui inclut un délicieux petit déjeuner et un crédit d'une valeur de $75 à dépenser dans le restaurant de l'hôtel. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
Bon, messieurs, c'est le dernier tournoi du Grand Chelem qui débute aujourd'hui. Je vois déjà derrière toi, Hugues, au moment où on enregistre Andy Murray sur le terrain au US Open. Ça va être une édition particulière, hein, messieurs. Nico, je commence avec toi. C'est peut-être l'adieu des Sir Williams. On sait que Serena, c'est terminé, mais avec Venus qui joue en double également, je ne suis pas surpris que Venus annonce aussi que c'est terminé, quoique, on verra, mais elle est plus vieille que Serena. Alors, ça va être une édition particulière, hein, je pense, Nico.
Oui, ce tournoi-là, je pense, va être un lien entre le passé et l'avenir. C'est-à-dire que, bon, tu parles des Sir Williams qui pourraient tirer leur révérence. Du côté des hommes, est-ce que Nadal va gagner son dernier grand chelem? Est-ce que ça va être son dernier grand chelem en carrière? Très peu de gens le savent. Et de l'autre côté, il y a des jeunes. Je pense que ça va être un tournoi extrêmement difficile à prévoir parce qu'à peu près n'importe qui dans le top 15 le peut gagner, tant chez les hommes que chez les femmes. Je ne serais pas surpris que le gagnant et la gagnante soient des premiers gagnants grand chelem. On le fait à chaque tournoi, les gars, le jeu des prédictions, on se mouille. Mais ce tournoi-ci, j'ai vraiment de la difficulté à me fixer sur l'éventuel gagnant et l'éventuelle gagnante parce que tout peut arriver. T'sais, on le sait, Serena, on parle d'elle comme étant la grande histoire du tournoi. Avec raison, on se dit, bon, après une ou deux rondes, ça va être réglé. Mais qui sait si Serena ne peut pas atteindre un quart de finale? Ce serait extrêmement surprenant. Mais dans ce contexte historique, sachant que Serena n'a rien à perdre, mais a tout à gagner, ça va être un sublime tournoi. Les Canadiens seront extrêmement dangereux. Tant Félix, tant Denis, que Bianca, Leila, Dabrowski en double aussi. Vraiment, ça va être du bonbon. Et c'est un deux semaines vraiment intense là, qui va commencer pour tout amateur de tennis.
Hugues, ça va être difficile pour toi de regarder d'autres sports.
Bon, moi je suis arrivé à ma télé pour les deux prochaines semaines, c'est déjà commencé. Ce que je retiens déjà, quelques éléments, 5 Canadiens dans les tableaux principaux en simple et en double. Plus Gabby Dabrowski en double. Donc, 6 Canadiens dans le tableau, dans le tableau US Open. C'est vraiment, c'est un record. Donc, on est hyper, hyper fiers de ça. Deuxièmement, autre point à retenir, il y aura une bataille pour le rang de numéro 1 au monde qui va se vivre au US Open. 4 joueurs peuvent devenir numéro 1 si Medvedev ne protège pas tous ses points. Je vous les donne dans le mille. Nadal, Tsitsipas, Alcaraz et Casper Ruud ont tous accès au premier rang mondial selon, évidemment, ce qui va se passer jour après jour au US Open. Mais Medvedev est sous pression. Donc, je le mets encore comme favori. Mais ça va être vraiment un US Open intéressant. Il peut se passer beaucoup de choses. Et du côté féminin aussi, on a vu Iga Swiatek beaucoup moins solide.
Dominante.
Il peut se dominante, exact. Il peut se passer beaucoup de choses du côté féminin. Une Caroline Garcia qui est en émergence cet été, qui va très bien. Qu'est-ce qui va arriver avec Leila, avec Raducanu? Beaucoup de points d'interrogation. Ça va être un US Open fascinant comme à chaque année.
Ouais, effectivement, mais je trouve que qu'il y a beaucoup d'enjeux. Tu parlais de Medvedev. J'étais un peu triste pour lui qu'il soit tant sous pression que ça, parce que s'il était allé chercher un 500, un 1000, 1000 points, 2000 points peut-être même à Wimbledon, ben, il serait peut-être pas sous pression. Alors, c'est un peu dommage que son numéro 1 soit.
Bien d'accord avec
soit,
toi.
Soit mis en jeu pour cette raison-là, là. Surtout quand on connaît le personnage, enfin. Mais si on va parler des Canadiens, je vais vous demander vos prédictions un peu plus tard, mais juste avant qu'on fasse ça, je veux juste qu'on parle de Serena Williams avant. Je pense que c'est important. Ce sera son dernier tournoi. Elle affronte Kovinic au premier tour, la 80e joueuse mondiale. Bon, elle n'a jamais joué Kovinic. Ça devrait passer, je pense, pour Serena, mais on ne sait pas. Son niveau de jeu est tellement incertain. Mais déjà, dès le deuxième tour, messieurs, ce serait possiblement Kontaveit. Moi, je vais être bien honnête avec vous. Je ne m'attends pas à la voir passer le deuxième tour. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Nico?
Ben écoute, à la lumière de ces résultats de cet été, c'est plus une tournée d'adieu qu'une tournée. Je me prépare pour gagner l'US Open. Là. Moi, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui avec Serena. Je pense aussi qu'elle va gagner son premier tour ce soir. Elle est évidemment en night session. Deux matchs évidemment spectaculaires ou en tout cas très divertissants attendus ce soir. Donc, Serena va ouvrir la session de soirée sur le Arthur Ashe, suivi de Kyrgios contre son partenaire de double, Kokkinakis. Ça ne devrait pas être inintéressant, ça aussi. Mais Serena, je pense que ça va s'arrêter au deuxième tour. Si on regarde ce qui se passe avec ses résultats cet été, là, je pense que Kontaveit, ça va déjà être trop pour elle. J'ai lu un peu sur son état actuel. Le problème majeur, c'est qu'elle a beaucoup ralenti. C'est pas sa puissance,
ah
c'est pas sa hargne, c'est pas son goût de gagner, mais elle est beaucoup moins mobile qu'elle l'était. Et ça ne survivra pas à des joueuses au plus haut niveau.
Oui, puis on s'entend aussi que Serena, la mobilité n'a jamais été sa grande force. Donc, en partant plus du principe qu'elle est encore moins mobile qu'auparavant, ça peut être dangereux. Mais pour répondre à ta question, Alex, autant j'adore Annette Kontaveit, c'est une joueuse sublime, je l'aime beaucoup, sa progression, elle est formidable. Mais je pense que c'est peut-être la joueuse du top 10 la plus prenable pour Serena parce qu'elle n'a pas beaucoup joué, elle n'est pas habituée d'évoluer comme deuxième mondiale et elle est peut-être plus fragile. Et imagine la pression, j'imagine être sur le central contre Williams dans possiblement son dernier tournoi à vie. La pression va être à couper au couteau. Je ne voudrais pas être dans les souliers de Kontaveit.
Oui.
Elle pourrait, je pense qu'il y a une possibilité que Williams remporte ce match-là. Je ne miserais rien là-dessus. Mais il y a pour moi une petite possibilité. Et après ça, le tableau s'ouvre, entre guillemets, un petit peu Trevisan. On ne sait pas trop ce qui peut arriver. Williams pourrait, par un coup de génie, avec des as nombreux, pourrait l'emporter. Après ça, Leila, qui revient à peu près d'une...
Ou Krejcikova, ou Samsonova.
Exact.
La quatrième tour, il serait compliqué.
Évidemment, mais il y a quand même pour moi, à chaque match, une petite porte qui est ouverte, qui est entr'ouverte.
C'est Serena. La porte est
exact.
Ouverte jusqu'au titre parce que c'est Serena.
Exact. Mais non, je ne miserais rien là, sur un titre de Serena. Même une patte d'ours à la mélasse que je trouve absolument grotesque.
Mais ton commentaire sur Annette Kontaveit est tout à fait justifié, Nico, parce que bon, bonne nouvelle pour Serena, c'est que Kontaveit n'a pas passé un deuxième tour en grand chelem cette année.
Oui.
Pour
oui.
une fille de son calibre mondial, ça frôle l'inacceptable.
Ben, exact, d'autant plus que, tu sais, si on compare à des Muguruza, Sabalenka, Sakkari, qui sont beaucoup plus expérimentés, là,
Alep.
Pour moi, Alep. Qui sont pour moi des, comme on dit dans le jargon, en anglais, des no-brainer. Un match contre Serena, ce sont des victoires presque assurées. Mais contre Contavate, il y a peut-être de quoi faire pour
oui, tu as raison, Nico. Ça va être un match très dur au niveau mental pour Contavate. La foule du US Open, on la connaît. Et c'est bruyant, c'est électrique. il peut se passer n'importe quoi. Donc, je pense que ça va être un nouvel environnement pour Contavate qu'elle n'a jamais, jamais eu cette expérience-là jusqu'à maintenant. Et Serena pourra évidemment en profiter davantage.
Et les gars, supposons, on se projette. Williams qui gagne le US Open, ça se classerait où? Avant, après Tiger au Masters 2019, est-ce que ça se classerait après le Miracle on Ice? Est-ce que où vous voyez une dans le schéma sportif historique, là, où ça se classe? Hein?
C'est intéressant parce que ça ressemble étrangement à l'histoire de Tiger au Masters.
Ouais.
C'est intéressant parce que c'est deux histoires qui se ressemble étrangement dans le contexte. Nico, tu es probablement la meilleure personne pour l'évaluer parce que tu es définitivement le meilleur généraliste de nous trois. Mais pour une fille qui a surmonté des blessures, qui n'a pas gagné autant de remporter un tournoi d'une aussi grande importance comme l'a fait Tiger il y a quelques années, en tout cas, je vais te dire une chose, s'il faut qu'elle remporte, tu sais, on ne peut pas lui donner une chance à Serena, c'est impossible. Tu ne peux pas gager contre elle. Mais non, c'est une histoire intéressante. Je pense que ça se compare à Tiger. Je pense que ça se compare très bien à Tiger.
Au tennis, j'imagine, Hugues, toi qui es une encyclopédie, j'imagine que ce serait le plus grand moment de l'histoire du tennis.
Il y a eu le retour d'Agassi avec sa victoire en 99 à Roland-Garros quand il était tombé au 137e rang. Il jouait en Challenger. On dit Agassi, il est brûlé, c'est fini. Il revient, il gagne son 4e Grand Chelem à Roland-Garros. C'était exceptionnel, mais je pense que Serena, c'est plus près que Tiger Woods parce qu'on parle du GOAT là, dans leur sport respectif. Ce genre de retour-là est beaucoup plus près de ce que Tiger a accompli au Masters en 2019. Et elle irait chercher ce fameux 24e Grand Chelem.
Ben oui, c'est vrai aussi, ben oui.
Au premier rang de tous les temps, en termes de victoire en Grand Chelem, hommes et femmes confondus. Mais écoute, on est vraiment dans l'hypothétique en ce moment, les gars, parce qu'elle ne nous a pas démontré ça. Là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux semaines à Cincinnati, où elle n'a même pas fait la conférence de presse d'après-match parce qu'elle ne sentait pas qu'elle pouvait le faire, parce qu'elle était très déçue de sa défaite. Est-ce qu'il y a un miracle là, qui s'est passé depuis deux semaines? On verra, mais moi, j'y crois pas trop à une victoire de Serena.
Et avec une dernière, les gars, pour la fantaisie, là, qu'est-ce qui vous donnerait le plus de frissons? Un titre de Williams ou un titre de Nadal?
Williams. Une Américaine aux États-Unis qui remporte un 24e Grand Chelem, quant à moi, ça, c'est... Écoute, Serena, pour toute l'histoire, confirmerait sans aucun doute son titre de plus grande joueuse de l'histoire dans une... Tu sais, Nadal, il a déjà deux Grands Chelems cette année-là. Il est pas mal plus en avance sur Serena que sa victoire, que peut l'être. Alors, ça serait beaucoup plus surprenant. Pour moi, j'aurais plus de frissons avec Serena. Mais toi, Hugues, défendons Nadal.
Ah, t'as dit Nadal, Hugues?
J'ai dit Nadal parce que ça serait juste incroyable, les gars. Vous imaginez là, la saison qu'il fait avec ses blessures et tout ça, qui aligne trois Grands Chelems. Attention, la discussion du GOAT du côté masculin au niveau hors le nombre de titres, Nadal se sauve avec le prix en ce moment là. Donc c'est pour ça moi que je vois Nadal. Je pense que la profondeur du truc que Nadal fait en ce moment lui donnerait encore plus d'excitation pour la foule. Et il y a plein de gens qui commencent à le mettre comme favori en ce moment. Donc moi oui, Serena, c'est une histoire incroyable. Puis j'ai envie de vivre ce moment-là aussi. Mais moi, je mets Nadal encore plus une coche au-dessus parce que c'est juste complètement inattendu qu'il réussisse à enchaîner encore les grands chelems cette année.
D'autant plus qu'à il était à ça.
Ben oui.
À Wimbledon, à raison d'une blessure aux abdominaux, n'a pas pu affronter Kyrgios en demi-finale. Mais imaginez si Nadal se présente à Flushing Meadows avec la possibilité de faire le grand chelem. Ça aurait été...
Les gars, je le redis, Nadal, pour moi, est le plus grand... ou parmi les deux, fighter. Trois plus grands sportifs, tous sports confondus, là, avec les Tom Brady, Michael Jordan, c'est un régal de voir Nadal quand on aime le sport. Il nous donne ce tour de piste incroyable cette année. Il faut se régaler de ce qu'on voit de Rafael Nadal.
Et on peut dire, il a perdu à son premier match à Cincinnati. C'est pas rassurant, mais par contre qui il a perdu? Borna Koric. Qui a éventuellement remporté le tournoi. Il a perdu en 3-7, donc il a passé tout le monde et il a perdu en 3-7. Alors, comme j'aime le dire, ça vient relativiser sa défaite.
Oui, puis rappelle-toi aussi l'an dernier, il avait perdu contre Norrie, je pense, à Washington très tôt, puis il s'était remis après. Fait que je ne sais pas s'il y en a un qui peut revenir. Je pense que s'il y en a un que la défaite n'effraie pas trop, là, c'est Nadal, qu'il y en a vu d'autres.
Exact. Alors, écoutez, ça va être intéressant à suivre. Dans le cas de Nadal, l'avantage, c'est que son tableau est pas très compliqué avant Cameron Norrie ou Chapeau en quart de finale, mais tu sais, il ne faudrait pas exclure une demi-finale contre Alcaraz. Ça, c'est pas bête du tout de penser ça. Bon, messieurs, bon, ça, ce sont pour les grandes histoires, à moins que Nico avait quelque chose à ajouter.
Non, ça fait le tour.
OK. Alors, messieurs, je veux qu'on parle des Canadiens. À quoi s'attendre de Félix Auger-Aliassime? Hugues, je commence avec toi. Tu t'attends à quoi de Félix? Oh, je pense que ton micro n'est pas branché, Hugues. C'est une conversation avec Félix. Ah, OK, Hugues, vas-y.
Pour le mieux, pardon. Je m'attends à un très beau US Open de Félix Auger-Aliassime. Encore une fois, il a engrangé de l'expérience cet été. Son match de demi-finale à Montréal, où il était un petit peu de quart de finale, pardon, où il était un petit peu passé à côté. Je pense que ça va l'avoir aidé encore une fois. Donc, je m'attends à un très beau parcours de Félix dans un tableau qui est quand même relativement prenable aussi, sans Djokovic et sans Zverev. Oublions pas que les numéros 1 et 2 mondiaux sont pas là cette année. Félix qui rentre en sixième favori. Hey, les gars, qui aurait pensé ça il y a encore 5-6 ans? Félix Auger-Aliassime est sixième favori du US Open cette année. Je pense que Félix va aller très loin. Je m'attends à un carré d'as pour Félix cette année.
Nico?
Moi aussi, je m'attends à un carré d'as. Cependant, où je mettrais un petit bémol, c'est le tableau, parce qu'il est, je pense, dans la portion la plus monstrueuse. Tu sais, si on compare le haut et le bas, là, tu sais, pour les gens qui n'auraient peut-être pas vu le tableau, là, dans la portion de Félix, qui est dans le haut du tableau, il y a Medvedev, Kyrgios, Dominor, Akhmatov, Tsitsipas, Berrettini, Fritz, Casper Ruud aussi. Donc, ce sera vraiment pas simple.
Mais c'est, Félix, un c'est un grand chelem.
Exactement. Félix est rendu à un moment de sa carrière où il doit battre ces gars-là parce qu'il ne peut pas gagner un grand chelem en affrontant que des qualifiés. Donc, s'il veut gagner un grand chelem, le faire au US Open, d'autant plus où il a connu beaucoup de succès. Souvenez-vous, là, il y a un an à peine, Félix était à quelques balles de la finale contre Medvedev. Alors, il ne faut pas non plus se mettre dans l'œil en pensant qu'on est chauvin. Là, Félix, on dit qu'il va être bon à cause qu'on est Québécois. Vraiment, vraiment pas. Là. Il a toutes ses chances. Écoutez, là, demi-finale à Los Cabos, quart de finale à Montréal, quart de finale de tournoi d'après aussi. Il est sur une bonne séquence et ce serait pour lui une excellente manière de conclure cette saison de rêve.
Excuse-moi, Alex.
Ouais, vas-y, Hugues.
Ben, j'allais dire, le seul petit enjeu que je vois, qui est un enjeu majeur en même temps, là, c'est au premier et deuxième tour, parce qu'on sait que Félix a un peu de difficulté à rentrer dans ses tournois à l'occasion. Quand il passe sur une séquence, là, il peut passer plusieurs rondes de façon plus confortable, mais dès le deuxième tour, il peut affronter Jack Draper ou Rosso Vori, qui sont des sacrés clients quand même. Donc, moi, j'ai juste peur à son deuxième tour. Si ça passe, après, il est bon pour aller jusqu'au carré d'as, selon moi.
Ouais, après ça, il a possiblement Akhmatov sur son parcours. Karen Obusta qui a remporté Montréal et en quart de finale Medvedev. Moi, je le vois aller jusqu'en quart de finale, messieurs, mais effectivement, ce ne sera pas simple. Il n'a pas un tableau complètement démesuré, mais il n'a pas un tableau simple non plus. Est-ce que vous voyez un quart de finale? Est-ce que vous le voyez passer Medvedev, Félix, messieurs?
Présentement, oui. Pour plusieurs raisons. Medvedev est encore un petit peu rouillé, je pense. Il n'a pas connu le succès escompté à son retour au jeu. Je pense que le match contre Kyrgios lui a fait mal. Je pense qu'il a encore du mal à gérer ce match-là. Et Félix sait comment jouer contre Medvedev. Demi-finale à New York, quart de finale en Australie où il a joué, je pense, jusqu'à maintenant, le plus beau match de sa carrière. Là. Je pense que c'est un des grands matchs auxquels j'ai assisté, évidemment, à la télévision. Mais il sait maintenant comment battre Medvedev. Ça va faire trois fois en l'espace d'un an qu'il l'affronte dans de grands moments. Et sa balle de match en Australie, je pense que ça fait 9 mois qu'il a sur le cœur parce qu'il était à ça de passer le meilleur joueur au monde. Donc, dans un duel, Félix-Medvedev, je donnerai l'avantage aujourd'hui à Félix.
Nicolas, je pense exactement la même chose que toi. Je pense qu'il est prêt à battre Medvedev et que ça va être maintenant au US Open qu'il va le faire. C'est pour ça que je le mets en demi-finale, évidemment. Il faut qu'il passe Medvedev avant. Et c'est sa balle de match en Australie, je suis sûr qu'il y pense encore. Et à chaque fois, il est passé de plus en plus près et la prochaine, ça va être la bonne. Et je crois que ça va être à New York, à Flushing Meadows, dans les deux prochaines semaines.
Puis honnêtement, les gars, si Félix passe Medvedev en quart de finale, peu importe le résultat de la demi-finale ou même de la finale, ce sera mission réussie. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus.
Ben, ça, c'est sûr. Messieurs, il nous reste environ 5-6 minutes maximum, puis on doit parler des femmes également, puis je veux pas qu'on le fasse trop rapidement. Alors, je vais vous demander de faire rapidement à quoi vous attendez de Chapovalov. Il n'a pas nécessairement un tableau facile à partir du troisième tour. Là, ce serait Rublev, Norrie et Nadal, 3e, 4e et quart de finale, et après ça, Alcaraz. Alors, à quoi s'attendre de Chapovalov? Quand même une belle performance lors du dernier tournoi.
Oui, rapidement, Chapovalov a bien fait. Il arrive avec un petit peu plus de momentum, un petit peu plus de rythme. Mais l'avantage de Chapo, vous le savez, c'est à quel point il est explosif. Donc, même si ça va mal depuis plusieurs mois, c'est le genre de joueur qui peut exploser un tournoi donné, on en parlait, surtout lors d'un grand chelem, lorsque ça compte, à New York. Tout peut arriver pour Chapo et c'est la beauté de le suivre.
Oui, puis là, son tournoi de Cincinnati lui redonne confiance. Une courte défaite, 7-5, 7-5 contre Medvedev, qui est une défaite qui ressemblait à une victoire pour lui. Ouais. Apparemment, Mikhail Yuzny, son ancien coach, est revenu dans son environnement dans les derniers jours, donc avec Polensky qui est toujours là, mais il reprend une formule qui l'a amené assez loin au niveau du classement et des grands chelems. Donc, je pense que Chapeau pourrait faire un bon US Open cette année. On est beaucoup plus rassurés cette semaine qu'on l'était il y a un mois avec Chapeau Valeur.
Ben, certainement. Ça, c'est très clair. Messieurs, du côté des femmes, commençons avec Rebecca Marino. Elle était très, très contente. Elle nous disait à Granby, je suis tellement fière de pouvoir rentrer directement dans le tableau principal. Le travail qu'elle a fait dans les 2 ou 3 dernières années, ça a été payant et elle a gagné cette place-là dans le tableau principal. À quoi s'attendre de Rebecca Marino, Nico?
Ben, malheureusement, pas grand-chose parce qu'elle pourrait affronter Alep au tour suivant. Mais pour elle, les gars, on en parle souvent. Au-delà des victoires, c'est le montant que pourrait lui rapporter un premier tour. Je n'ai pas regardé si c'était combien, mais dans un grand chelem…
C'est autour de 50 000 $.
Exact. Oui, oui. Donc, pour une joueuse de son classement, c'est non négligeable d'avoir une telle somme. Donc, pour elle, je lui souhaite seulement de passer le premier tour. Ce serait une belle réussite pour elle. D'autant plus le fait, vous en parliez tantôt, de rentrer par la grande porte, c'est déjà un accomplissement énorme. Donc, pour elle, un premier tour, je pense, ce serait mission réussie.
Oui. Pareil. Je pense qu'elle va battre fraîche au premier tour. Ça va déjà être un succès pour Rebecca de passer au deuxième. Contre Alep, ça va être trop dur. Alep est en feu en ce moment. Là, on en reparlera sûrement la semaine prochaine. Mais bravo à Rebecca Marino de rentrer dans le tableau principal directement au US Open. C'est un accomplissement en soi.
Messieurs, juste me corriger parce que je vérifiais les chiffres en même temps. Premier tour, 80 000 $ au US Open. Alors,
oui, ça a monté pas mal, effectivement. Oui, oui.
Ouais, ça a monté pas mal. Alors, 80 000 $. Ben, tu as raison, ce ne sera pas évident pour Marino, mais enfin, elle peut déjà dire mission accomplie, le simple fait d'être dans le tableau principal. Leila, messieurs, est-ce qu'elle peut répéter ses exploits de l'an passé?
En tout cas, un beau tableau.
Une grosse commande. Vas-y, Nico, ouais. Vas-y.
Ben, ce que j'allais dire, c'est qu'elle a quand même, dans les circonstances, un tableau qui est prenable. Ouais. Je pense qu'elle peut se faufiler jusqu'en 8e, voire en 4, dépendant de 11 jabeurs, qu'est-ce qui arrive, elle, de son côté. La seule inquiétude que j'ai, c'est son pied, son état de santé. Est-ce qu'elle est vraiment rétablie à 100%? Mais sinon, si on se fait au tableau, à ses performances passées, c'est un tournoi qui peut être positif pour Leila, je pense.
La façon dont les semaines se sont déroulées pour Leila dans le dernier mois, je pense qu'elle a tout misé sur le US Open. Alors, souhaitons qu'elle arrive en forme. Hugues, tu vois quoi, toi?
Ben, entre Bianca et Leila, c'est Leila qui a le tableau le plus prenable. Elle joue contre Dodin, contre la Française au premier tour, Oriane Dodin. Donc, ça devrait être prenable. Je pense aussi qu'elle va faire un bon tournoi, Leila. Bon, elle avait besoin de matchs depuis sa blessure au pied. Elle a réussi à aligner quelques matchs quand même. Donc, sa blessure doit commencer à être beaucoup plus un souvenir qu'un problème en ce moment. Et Leila va vouloir bien faire. Elle a adoré jouer à New York. Le public l'a adoré aussi. Donc, je pense qu'elle va être portée, Leila, jusqu'à la deuxième semaine du tournoi, à tout le moins, selon moi.
Mauvaise nouvelle, messieurs, parce qu'au deuxième tour, ben, elle affronterait potentiellement Samsonova, qui vient tout juste de remporter le tournoi Cleveland. Alors, ça, c'est peut-être pas la meilleure des nouvelles. Après ça, Krejcikova... comme championne de Grand Chelem, comme ta vête, et après ça, ben, ça se complique drôlement. Là. Mais enfin, ça, il y a quand même moyen d'être optimiste. Si le corps tient, on peut s'attendre au meilleur dans le cas de Leila Annie Fernandez.
Bianca.
Messieurs, Bianca.
Allons-y, si tu veux.
Vas-y donc.
Donc, Bianca, Bianca, c'est plus compliqué. Là. Dès le deuxième tour, Adad Maia, finaliste de Toronto, elle a un tableau, c'est le groupe de la mort, comme on dit au soccer là, pour Bianca. Mm-hmm. Ça va être vraiment difficile d'aller très loin. Elle est du côté de Coco Gauff. Elle a Sakkari de son côté. J'ai bien hâte de voir là, comment Bianca va aborder. Mais encore une fois, une grande compétitrice qui aime ces grandes scènes-là aussi. Mais je ne m'attends pas à une deuxième semaine pour Bianca, si vous me demandez ma prévision.
Et même au premier tour, Harmony Tan, elle, c'est elle qui avait battu Eugénie, si je ne me trompe pas, il n'y a pas si longtemps. Est-ce que je me trompe? Enfin, ça va être intéressant de voir Bianca. Nico, tu t'entends à quoi?
Un petit peu comme Hugues, mais en même temps, je réitère ce que je disais sur Chapeau. Elle pourrait exploser. Bianca, en 2019, ça a été ça. Ça a été une petite surprise de la voir franchir étape après étape avec brio, avec succès. Ce sera vraiment difficile parce qu'il y a aussi Garcia dans son tableau. Là, on l'a pas nommé, mais elle aussi, c'est une joueuse qui est dans de bonnes dispositions présentement. Difficile, mais pas impossible pour Bianca.
Intéressant. Messieurs, un nom, une prédiction, homme-femme. Nico, je commence avec toi.
Chez les hommes, Casper Ruud. Chez les dames, Jessica Pegula.
Hugues.
Chez les hommes, Tsitsipas. Chez les femmes, Caroline Garcia.
Ah ben moi, messieurs, je suis allé avec Caroline Garcia. J'ai-tu bien compris?
Oui. Mon Dieu.
OK.
Alex, arrête la film qui vient d'entendre ce que j'ai dit.
Ce que je vois, il est rentré une seconde plus tard. Mais elle joue bien, elle joue bien. Ben moi, je vais y aller avec messieurs Carlos Alcaraz du côté des hommes et du côté des femmes. Passation des pouvoirs, puisque Coco Gauff va remporter ce tournoi-là, messieurs. Messieurs, je vous remercie infiniment. Je vais avoir un peu de montage à faire parce qu'on a fait un peu plus long que prévu, mais c'est pas grave, c'était bien intéressant. Nico, on s'est ennuyé de toi dans les dernières semaines pour que tu puisses faire le traditionnel mot de la fin. On n'est pas aussi bon que toi pour le faire, alors je te redonne l'appareil, messieurs. Mon cher, tu fais le mot de la fin comme tu sais si bien le faire.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.